c'est un fait reconnu, notre Église est vivante. Vous avez dit vivante, et s'il ne s'agissait que d'une apparence, imaginez que le Seigneur apparaisse ce matin et nous dise, vous passez pour être vivant, mais moi je sais que vous êtes mort. Le coup serait terrible, si terrible qu'il n'est pas sûr que nous nous en relèverions. Ce coup, une Église l'a reçu, pourtant, et semble s'en être relevée, elle. L'Église de Sardes. Témoin, la lettre que lui a adressée le Seigneur et que je vous propose de relire et méditer maintenant. Nous en trouvons le contenu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Apocalypse 3, versets 1 à 6. C'est le Seigneur qui ordonne à l'apôtre Jean, écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses saints anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il nous faudra dans un instant nous efforcer de comprendre le sens de ce cinquième message du Seigneur à l'adresse cette fois de l'église évangélique baptiste de Sardes. Avant cela, quelques informations concernant la ville dans laquelle elle est née et s'est développée. Sardes, capitale de la Lydie, Sardes est située à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Thyatire, dans la vallée fertile de l'Hermus. Le ruisseau qui la traverse, le Pactole, c'est son nom, a fait sa réputation auprès des chercheurs d'or. Mais c'est surtout sa citadelle, réputée imprenable, qui impressionne. Enfin, quand je dis imprenable, je m'entends. Crésus, le plus célèbre de ses rois, s'y est déjà laissé surprendre par ses ennemis, auteur pour le coup d'une escalade nocturne proprement vertigineuse. Crésus. Sur le plan économique, Sardes est une ville prospère qui tire sa richesse de ses conquêtes, de son or amené par le Pactole, on y revient, de son commerce et de son agriculture. Sur le plan religieux, Sardes est une ville païenne aux nombreux sanctuaires, dont le plus grand est dédié à la déesse Artémis. Voilà pour la ville. Venons-en maintenant au message que Christ adresse à son Église évangélique. Il est composé de cinq éléments. qui feront l'objet de notre étude ce matin. Un autoportrait, un jugement, un appel, une menace, et enfin, comme toujours, une promesse. L'autoportrait, pour commencer. Celui de l'auteur, ici encore. Comment Christ, l'inspirateur de notre lettre, se présente-t-il à l'église de Sardes ? Comme le Fils de Dieu, d'abord. Verset 5, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, dit-il, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Aucun doute donc, c'est bien le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui souffle à son apôtre Jean le contenu de notre lettre. Nous concluons que son message a force de révélation divine. Mais s'il se présente d'abord comme le Fils de Dieu, Christ se décrit ensuite comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Verset 1, cette fois, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. » Par quoi nous comprenons ? Celui qui, parce qu'il est habité par la plénitude divine, et donc par celle de l'Esprit de Dieu également, possède d'emblée une parfaite connaissance de tout et de tous. Maintenant, s'il se représente d'abord comme à la fois le Fils de Dieu et celui qui a les sept esprits de Dieu, Christ se dépeint enfin comme celui qui a les sept étoiles, celui qui a les sept étoiles. Verset 1 toujours, « Voici ce que dit celui qui a les sept étoiles. » Par quoi nous comprenons cette fois ? Le chef de l'Église. Car nous savons à quoi renvoient les sept étoiles, chapitre 1, verset 20, les sept étoiles, je cite, sont les anges des sept églises. Autrement dit, la personnification de l'église tout entière, comme résumée par ces sept églises asiates auxquelles Christ a choisi de s'adresser individuellement. Le portrait qui nous est donné à voir ici est donc bien celui du ressuscité tenant dans sa main l'Église universelle. Cette Église qui lui a été donnée pour prix de son œuvre rédemptrice et sur laquelle il exerce désormais une pleine autorité. Voilà pour l'autoportrait, l'image du Fils même de Dieu, doté d'une connaissance parfaite et tenant dans sa main l'Église, dont il a été fait chef pour toujours. Venons maintenant au jugement. Le jugement. Il faut bien le reconnaître, d'une vigueur rare. Ce n'est pas que les œuvres de l'Église évangélique de Sardes soient mauvaises, c'est qu'elles sont trompeuses. Elles donnent à croire que l'Assemblée est vivante, alors qu'en réalité, elle est morte. Enfin, pas tout à fait. C'est ce que nous verrons dans un instant. Mais commençons par le premier verdict, terrible. Verset 1, notre traduction. « Je connais tes œuvres, » dit Jésus à l'Assemblée générale de Sardes. « Je sais que tu passes pour être vivante, mais tu es morte. » Imaginez la tête des membres de l'Église. C'est une véritable bombe qui vient de leur tomber dessus. Ils sont actifs, réunions tous les jours, ou presque, engagements multiples, projets ambitieux, et les résultats sont là, les effectifs sont en hausse, et les églises voisines sont de plus en plus envieuses. Et c'est alors que leur parvient ce blâme. Tellement inattendu. Votre assemblée passe pour être vivante, mais elle est morte. Comme quoi vitalité ne rime pas forcément avec vie. Et qu'il est donc impératif qu'en tant qu'Église florissante, nous assurions d'être encore bien vivants. par quoi nous entendons si attachés à Dieu qu'elle ne saurait agir que par amour pour lui, et donc cette seule intention, le réjouir et le glorifier. D'une Église entreprenante et dynamique, nous avons la réputation. Mais sommes-nous réellement vivants aux yeux de Christ? L'Église de Sardes, donc, une Église morte. Enfin, comme je le disais il y a un instant, pas tout à fait. D'où l'appel que son divin chef lui adresse et auquel nous allons maintenant nous intéresser. L'appel. Verset 2 et début du verset 3. « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » On ne s'adresse pas ainsi à un cadavre. C'est donc bien que l'Église de Sardes respire encore. Le fait est que Christ parle ici d'un reste. Un reste en danger, certes, mais un reste qui ne demande qu'à être affermi. Et puis il y a ces quelques personnes mentionnées au verset 4 qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Autrement dit, qui sont restées fidèles, elles, à leur engagement initial. Et qui n'ont pas cessé, elles, de vivre d'une manière digne du Seigneur. L'occasion pour nous de saluer en passant la généreuse probité du Seigneur, qui se garde de toute généralisation. Et n'omet pas de citer ces chrétiens discrets que personne à part lui n'a remarqué, mais qu'il tient lui en haute estime, en raison de l'exemplarité de leur comportement chrétien, et qu'il est bien résolu à accueillir bientôt dans sa suite, après qu'il les aura revêtus pour toujours d'un costume de louange. Mais revenons à l'appel adressé ici à l'église de Sardes. Un appel à la vigilance d'abord. Verset 2, sois vigilant. Plus exactement, deviens vigilant. Au sens de deviens un veilleur, quelqu'un qui veille. Plus qu'un simple appel au réveil, l'invitation du Seigneur ici est à une intention soutenue, un état entretenu de veille prolongée contre l'assoupissement mortel de l'inconscience ou de la bonne conscience satisfaite d'œuvres qui donnent l'illusion de vivre. Une invitation qui vaut que nous l'entendions ce matin, nous que guette toujours, hélas, l'auto-satisfaction. L'auto-satisfaction. Ainsi, l'objectif de Christ est-il ici clairement d'ouvrir les yeux du moribond sur son état réel, pour qu'il réagisse et agisse. Et nous voici face à l'appel suivant, un appel à l'action. Verset 2 toujours, affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est que si aux yeux des hommes, les œuvres des chrétiens de Sardes ont bonne presse, devant Dieu, elles sont loin, très loin encore, d'être ce qu'elles devraient être, le fruit naturel d'un désir obstiné, celui d'aimer Dieu, d'un amour authentique, en cherchant à lui être en tout pleinement agréable. D'où l'injonction divine à souffler sur les braises, en quelque sorte, pour ranimer la flamme de ceux qui, au sein de la communauté, ne sont pas encore morts, mais donnent depuis quelque temps des signes de faiblesse inquiétants. Et notre devoir, à nous aujourd'hui, d'accorder une attention toute particulière à ceux de nos frères et sœurs qui tiennent toujours, certes, mais pour combien de temps encore? Nous employer à les encourager, les fortifier, les soutenir. Telle est la difficile mais noble mission que nous avons reçue du ciel. Appel à l'action donc, affermis le reste. Suivi aussitôt par un troisième appel au repentir, un appel au repentir. Verset 3 cette fois, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Les chrétiens de Sardes ont accueilli l'évangile, mais leur belle ouverture à ces enseignements n'a pas duré. D'où l'injonction du Seigneur, il leur faut maintenant se remémorer leur début, se rappeler la joie avec laquelle ils ont entendu alors et reçu la parole des apôtres, et s'engager à persévérer cette fois dans l'obéissance à ces instructions. C'est donc un véritable changement de comportement qu'ils sont conviés ici. Ce que l'on appelle volontiers un repentir. Mais dites-moi, l'appel ne vaudrait-il pas aussi pour nous ce matin, nous que l'Évangile a jadis enchantés, mais dont la vie n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il nous commandait. Souvenons-nous, mes amis, de la parole reçue, redécouvrons-la et cette fois, gardons-la. Comment autrement pourrait-elle achever son œuvre en nous et faire de nous ces témoins fidèles reflets de Christ, sans lesquels le monde ne connaîtra jamais Dieu. Voilà pour l'appel, un appel qui, vous l'aurez noté, est aussitôt appuyé par ce qu'il convient d'appeler une menace. La menace, donc, deuxième partie du verset 3, « Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure. Je viendrai te surprendre. » Ainsi, l'église de Sardes est avertie. Si elle n'entend pas l'appel solennel qui vient de lui être adressé, celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, celui donc qui possède à la fois connaissance et autorité, celui-là viendra. Viendra pourquoi ? Pour faire la lumière. Précisément pour faire la lumière sur les dispositions réelles de l'Église à son endroit. Et arracher ses membres endormis à leur tranquillité illusoire. Viendra comment ? Comme un voleur, lisons-nous. Autrement dit, au moment où l'Église ne l'attendra pas, ou plus. En sorte que pour tous, la surprise sera totale, et pour les étourdis, la déconvenue immense. Le Seigneur, on le voit, ne saurait rester indifférent aux suites que nous donnons à ses appels. Il ne saurait rester indifférent aux suites que nous donnons à ses appels. Ce qu'il annonce ici n'est rien de moins qu'une forme d'irruption dans notre vie, le temps pour lui d'inspecter notre conduite. Et s'il se révélait qu'il s'agissait plutôt d'une inconduite à ses yeux, d'en faire ressortir la laideur insigne. Pour notre plus grande honte et probablement aussi notre malheur. D'où l'importance pour nous aujourd'hui qui ne souhaitons pas être pris en défaut par notre divin maître de nous examiner régulièrement et à nouveau ce matin. Nous examiner. Histoire de nous assurer que nous sommes bien, nous, de ces chrétiens qui n'ont rien à craindre d'une visite surprise du Seigneur. Parce que nous ne sommes pas, nous, de ceux qui, ayant versé dans l'autosatisfaction, ne progressent plus dans leur foi. Nous ne cessons pas, nous, de veiller sur nos pensées, nos paroles, nos actes, avec ce désir de les voir durablement purifiés. Parce que nous ne sommes pas, nous, de ceux qui négligent leurs frères et sœurs chancelants. Nous les avons à cœur, nous, et les épaulons avec amour et constance. Enfin, parce que nous ne sommes pas, nous, de ceux qui, après avoir entendu l'Évangile, en ont oublié les préceptes. Nous vivons, nous, d'une manière digne du Seigneur. Voilà pour la menace. Une menace fort heureusement suivie d'une promesse. Et quelle promesse ? La promesse donc, enfin. Versets 4 et 5. Cependant, dit le Seigneur, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Passons une fois encore sur l'exhortation habituelle à faire preuve d'attention. L'Esprit de Christ parle à l'Église. Il est important que nous écoutions. Passons sur cette exhortation habituelle pour nous arrêter sur 1. Le destinataire et 2. Le contenu de cette promesse finale. Son destinataire. Ici encore, comme dans les lettres précédentes, verset 5, le vainqueur. Le vainqueur, c'est-à-dire. C'est-à-dire, si l'on se reporte au verset précédent, celui qui n'a pas souillé son vêtement. Reste à comprendre ce que signifie cette formule. Le vêtement, nous explique-t-on, fait corps avec la personne et peut signifier, dans les textes bibliques et juifs, la qualité morale ou spirituelle de quelqu'un. D'où nous concluons que celui qui ne l'a pas souillé est celui dont l'être et le comportement nouveau, hérité au moment de sa conversion, sont demeurés irréprochables. Ainsi nous apparaît-il que le vainqueur, ici, à qui la promesse est destinée, est celui qui, depuis qu'il a été saisi et transformé par son Sauveur, n'a pas cessé, lui, de vivre, j'y reviens, d'une manière digne du Seigneur. Voilà pour le destinataire de la promesse. Son contenu maintenant, il est triple. Une communion bienheureuse, un rayonnement glorieux, et une reconnaissance définitive. Une communion bienheureuse d'abord. Fin du verset 4. Parlant des personnes qui dans l'Église seront restées fidèles, Christ déclare, « Elles marcheront avec moi. » L'image est belle. Elle est même très belle. Ceux d'entre nous qui auront vécu jusqu'au bout la vie nouvelle qu'ils ont reçue, littéralement, iront et viendront avec le ressuscité. Se promèneront avec lui. Définitivement attachés à lui, ils l'accompagneront donc dans tous ses mouvements. Leur communion avec lui sera une communion de tous les instants. Une communion bienheureuse, et puis un rayonnement glorieux. Fin du verset 4 déjà, de tous ceux qui dans l'Église toujours sont demeurés irréprochables, eux. Christ dit qu'ils marcheront avec lui en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Et puis, début du verset 5, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Que signifie cet autre élément de la promesse ? Très simplement, que ceux parmi nous dont la vie sera restée exemplaire jusqu'à la fin partageront la gloire même du ressuscité. Le vêtement dont ils seront habillés, pour reprendre l'image qui nous est proposée, sera identique au sien. Ils brilleront donc comme lui dans l'éternité. Une reconnaissance définitive. Enfin, fin du verset 5 cette fois, « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Parce que nous croyons exclus que Dieu puisse reprendre ce qu'il a donné gratis, la vie, en retirant un nom de ce qui nous est présenté ici comme une sorte de registre des nouvelles naissances, au motif que son porteur, par son comportement, aurait rendu sa grâce inopérante, nous lisons cette déclaration comme une ultime promesse faite au vainqueur. Loin d'être rayé du livre de vie, son nom sera proclamé solennellement. Son nom sera proclamé solennellement. Quand ? Au dernier jour. Par qui ? Par le ressuscité en personne. Qui, littéralement, c'est le mot que nous trouvons ici, confessera alors son identité. Ce n'est pas lui le vainqueur, mais Christ, qui devant Dieu et ses saints anges, le reconnaîtra et le nommera. Père, je te prie maintenant d'accueillir Paul, ou Gérard, ou Ratiba, Micheline, que sais-je. Oui, je te prie maintenant de lui ouvrir les portes de ta maison. Il m'a reconnu, il m'a confessé sur la terre. Il m'est resté fidèle, il a résisté, il a vaincu. Il est mon frère, il est ton fils. Qu'avec moi, il soit à jamais chez toi, chez nous. Il nous faut conclure. Verset 6, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Avons-nous entendu ce matin ce que par son Esprit, le Fils de Dieu, qui a les sept esprits de Dieu et qui tient les sept étoiles, nous a dit ? Que nous a-t-il dit ? Une chose très simple, me semble-t-il, finalement. Ce n'est pas ce que vous-même pensez ou ce que les autres pensent de vous qui compte le plus. Ce qui compte, c'est ce que je sais, moi, de vous. Et ce que je sais de vous n'est pas si emballant que cela. Quand je vois comment vous vous êtes comporté depuis que vous m'avez juré fidélité, quand je vois tous vos détours, vos errements, vos compromissions, je ne peux que vous presser, oui, vous presser de vous ressaisir. Et l'ayant fait de vous exhorter mutuellement de telle sorte qu'ensemble, ensemble, vous retrouviez le bon chemin. Non, je ne plaisante pas. Croyez que si vous ne prenez pas mon appel au sérieux, je vous rendrai visite et qu'il n'est pas sûr que vous trouviez agréable notre rencontre. Allez, reprenez-vous. Et résister cette fois. Parce que ce que je cherche, ce sont des vainqueurs. Les hommes et les femmes obstinément fidèles, que j'aurai le plaisir immense, non seulement d'accompagner dans le monde à venir, mais encore, après que je les aurai cités un à un avec fierté devant mon Père et devant ses anges, de faire briller comme des étoiles dans l'éternité. Chers amis, prions. Prions qu'il nous soit donné d'être nous-mêmes, de ces vainqueurs bienheureux. Amen.